La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour, je suis Florence Banquali, pasteur à l'Église évangélique libre de Toulouse. Et en ce 14 février, je voulais explorer la Saint-Valentin. C'est vrai, cette fête fait partie de notre calendrier liturgique français. Après Noël, la galette, la chandeleur, eh bien voici la Saint-Valentin. Ces bouquets, ces ballotins de chocolat, ces dîners en tête-à-tête. Et même en période de coronavirus, même si les restaurants sont fermés, la Saint-Valentin met une petite pression sur les couples avec les publicités omniprésentes qui nous invite à participer à cette fête un peu trop commerciale. Cette fête qui nous met mal à l'aise en tant que couple, mais qui peut aussi mettre mal à l'aise ceux qui ne sont pas ou plus en couple. Le 14 février vient alors remuer le couteau dans la plaie, alors que déjà c'est un sujet très sensible, le célibat. Il vaudrait mieux parler d'ailleurs des célibats. Il y a le jeune de 20 ans concentré sur ses études, celle qui, à 45 ans, n'a encore jamais trouvé chaussure à son pied, celui qui a des attirances incompatibles avec sa foi, celle qui ne veut plus du couple après en avoir trop souffert. Certains le supportent très bien, le célibat, ils profitent d'une certaine liberté, d'une disponibilité plus grande. Mais pour d'autres, et pour tous peut-être à certains moments, la solitude reste un poids difficile à porter. Le sentiment d'isolement peut s'alourdir de questions existentielles. Pourquoi pas moi? De quoi sera fait mon avenir? Sur qui puis-je compter? Où trouver de l'affection? Et particulièrement dans les temps difficiles que nous traversons, où la vie sociale connaît un sérieux coup de frein, voire un coup d'arrêt, la solitude pèse encore plus sur ceux qui vivent seuls. Et puis à côté des célibataires, il y a les divorcés, les veufs, qui sans être techniquement célibataires, se retrouvent dans un quotidien qui peut ressembler sous certains aspects au célibat. Alors je me suis dit que la Saint-Valentin était un bon moment pour parler du célibat. Et pas seulement aux célibataires, parce que nous sommes tous concernés. Non seulement pour mieux comprendre les célibataires que nous côtoyons, mais aussi parce que, en creux, réfléchir au célibat nous pousse à revisiter notre vision du couple et de l'amour. Alors je ne prétends pas aborder tout ce qui concerne le célibat ici, mais je voudrais partir du texte fondamental qui nous parle du couple et qui se trouve au tout début de la Bible, dès le récit de la création de l'humanité. Je lis donc dans le livre de la Genèse, qui raconte, de façon imagée, les débuts de notre monde au chapitre 2. Elle zoome sur la création de l'humanité. Après avoir créé les cieux, la terre et tout ce qui les remplit, Dieu crée l'être humain et il fait ce constat. Genèse 2, versets 18 à 24, je lis dans la nouvelle traduction en français courant. Le Seigneur se dit, « Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. » Avec de la terre, le Seigneur façonna quantité d'animaux sauvages et d'oiseaux, et il les conduisit à l'être humain pour voir comment celui-ci les nommerait. Chacun de ces animaux devait porter le nom que l'être humain lui donnerait. Celui-ci donna donc un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. Mais il ne trouva pas de vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit un de ses côtés et referma la chair à sa place. Avec ce côté, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. Celui-ci s'écria, « Ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre, du même sang que moi. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. » C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront tous deux une seule chair. Ce texte incontournable des mariages, on a tendance à le lire sous l'angle du couple. Lorsque Dieu crée l'humanité, il la crée mâle et femelle avec la promesse d'une union féconde sous le signe de la complémentarité. Hommes et femmes sont appelés à s'unir et à se multiplier pour remplir la terre. Et c'est vrai qu'en Genèse 2, le texte zoome sur le couple, comme il zoome sur tout signe de l'émergence de la vie. incroyable, cette vie qui advient, qui est appelée avec la bénédiction divine à grandir, à se multiplier et à bouillonner dans ce monde. Hein. C'est un hommage au Créateur vivifiant qui invite ses créatures à procréer, à co-créer avec lui. Sauf que le constat de base nous invite à voir plus large que le couple. Ce constat, c'est que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Le problème, c'est la solitude. Et après différentes tentatives, c'est la création de la femme qui vient résoudre ce problème. Hommes et femmes pourront être en vis-à-vis, se secourir mutuellement et créer, procréer ensemble. Que nous dit la création de la femme ? C'est le besoin pour l'être humain d'avoir en face de lui un être semblable mais différent. Le besoin d'une solidarité profonde, on se comprend, mais aussi d'une différence, d'une altérité qui vient nous enrichir. Cette ressemblance-différence, elle est visible dans le couple homme-femme, mais on la vit au-delà dans toutes les relations humaines, dans la fratrie, avec les autres générations, avec les amis, les collègues, les voisins, et même l'étranger qui croise notre route. Aucun être humain que vous croisez n'est à 100% différent de vous, comme s'il était d'une autre espèce ou qu'il venait d'une autre planète. Mais il n'est pas non plus à 100% comme vous. Pour répondre à la solitude humaine, Dieu crée d'autres humains, semblables mais différents. Alors il y a des gens qui ne supportent pas d'être seuls, et d'autres qui se qualifient au contraire d'ours ou d'ermite et qui aiment être tranquilles. Cela dit, hors exception, car il y en a toujours, la solitude totale de l'être humain est quelque chose d'insupportable. Et d'insupportable d'abord pour Dieu. C'est pour Dieu que la solitude est insupportable. Pourquoi ? Parce que lui ne la connaît pas. La Bible révèle de manière un petit peu mystérieuse que Dieu est à la fois unique, il n'y a qu'un Dieu, mais qu'il est pétri de relations, saturé d'amour, entre les trois personnes indissociables qui le composent et qu'on appelle Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu n'est pas seulement amour, comme on aime à le dire, mais de toute éternité, il aime et il est aimé. Alors quand il décide de créer l'être humain à son image, la solitude est impossible. L'être humain est lui aussi appelé à aimer et être aimé, à être en relation avec des personnes semblables, mais différentes, à qui il peut donner et de qui il peut aussi recevoir. Le couple est présenté dans le texte biblique comme une relation à part. On y trouve une différence incompressible. Hommes et femmes fonctionnent vraiment différemment, hein, au point que certains clament qu'on vient de deux planètes différentes, comme disait John Gray dans son ouvrage « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus ». Mais la proximité, l'intimité, l'union dans le couple se vit aussi de manière unique et elle se vit de manière charnelle. Le couple, c'est cette relation humaine en quelque sorte ultime où la différence est particulièrement marquée et où l'unité se vit d'une manière particulière aussi. C'est peut-être la relation qui exprime le plus notre besoin d'amour. Alors, le couple qui se vit dans la différence complémentaire au sein d'une communion paisible, c'est l'idéal. Et quand on est jeune, on s'imagine souvent qu'il s'agit de trouver chaussure à son pied. Cette recherche de l'âme sœur conduit parfois à des problèmes dans le mariage. Quand ça coince, c'est que l'autre n'est pas le bon. Donc si je change de conjoint comme je change de chaussure, peut-être que ça ira mieux. Il y a des gens comme ça qui enchaînent les relations en quête de l'âme sœur. Je connais aussi à l'inverse des célibataires qui le sont parce qu'ils n'ont pas rencontré l'âme sœur, parce qu'ils n'ont pas rencontré cette personne qui correspond à leurs critères. La faille dans cette vision des choses, autant pour ceux qui enchaînent les relations que pour ceux qui sont restés seuls, c'est que l'autre n'est pas une chaussure. L'autre, c'est un pied. Et oui, dans toute relation, nous sommes des pieds et personne n'est une chaussure pour l'autre. Dans sa différence, l'autre n'est pas une chaussure faite sur mesure pour répondre à mes attentes. Là, on tombe dans une vision consumériste qui réduit l'autre à un statut d'objet fait pour assouvir mes besoins. Mais l'autre n'est pas un objet. Il n'est pas fait pour que je l'utilise. Il est sujet autant que moi. Et de la même manière que je n'ai pas envie d'être utilisé, l'autre n'a pas forcément envie d'être utilisé. Alors je dis l'autre en pensant au conjoint, qui est absolument pas une chaussure pour mon pied, qui est une personne à part entière. Mais dans une moindre mesure, chacun de nos proches, un enfant, une mère, un frère, une amie, chacun de nos proches peut nous apporter beaucoup, mais aucun n'a été fait pour que je l'utilise pour assouvir mes besoins. Chacun a une dignité propre, un respect qui lui est dû, et chacun aussi a ses besoins, ses fragilités, ses limites, ses imperfections. Lui aussi se comporte parfois comme un pied. Mais du coup, dans le mariage, comme dans toute relation, même quand on a beaucoup d'espoir dans la relation avec l'autre, on peut finalement se sentir très seul. Très seul parce que l'autre, parfois, ne me comprendra pas. Il sera en décalage, voire il me rejettera, voire il me trahira. Et là, on touche à quelque chose de crucial. Dieu nous a créés à son image et il nous a câblés pour aimer et pour être aimés. Mais jamais, au grand jamais, il ne nous a programmés pour que l'amour humain soit notre seul horizon, pour que l'amour humain soit la seule source, la source totale de notre plénitude. Au contraire, Dieu a tissé dans notre humanité un besoin fondamental de l'autre comme signe de notre besoin de l'autre avec un grand A, la seule source d'amour qui puisse complètement envelopper notre pied, notre cœur et nous combler. C'est l'amour de Dieu. C'est la relation avec Dieu. Toutes nos relations humaines sont des reflets, des images, des expériences, des débordements de cette relation d'amour que Dieu veut d'abord vivre avec nous, lui et nous. Et nos relations humaines expriment la relation d'amour avec Dieu d'une certaine façon, mais jamais elles ne pourront la remplacer. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul lorsqu'il écrit dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 5 toute une réflexion sur le mariage des versets 21 à 33. Et au verset 31 et 32, voici ce qu'il écrit. « C'est ainsi qu'il est écrit, faisant référence à Genèse 2, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Il y a là un grand mystère, un grand projet de salut, et je dis moi que ce projet se rapporte au Christ et à l'Église. Pour Paul, c'est très clair, le mariage est une image, une parabole, un symbole de notre relation avec le Christ. Le couple humain n'est pas l'horizon ultime de notre bonheur, il n'est pas le sens de notre vie, c'est un signe. Comme toute relation d'amour, un signe de l'amour que Dieu veut vivre avec nous à travers Jésus-Christ. On a beau être chrétien, on oublie parfois cette réalité et on place sur le couple toute la responsabilité de notre bonheur affectif, de notre équilibre émotionnel. Bizarrement, même dans les milieux chrétiens, là on se retrouve très en phase avec notre société. En effet, même si les projets conjugaux de notre société sont pour le moins confus, notre culture présente l'amour conjugal comme la seule vraie source de plénitude. Un coup de foudre, un éclair qui estompe toutes les autres relations. Mais le couple n'est pas tout. Et on a tendance à l'oublier quand on veut caser les gens à tout prix, comme s'ils n'existaient pas tant qu'ils n'étaient pas mariés. Les célibataires parmi nous nous rappellent par leur présence, que l'amour dont nous avons besoin est plus large que l'amour du conjoint et même que l'amour de la famille. Il nous invite à regarder plus haut vers Dieu, la seule source vivifiante, la source qui déborde dans toutes nos relations humaines, la source fondamentale. D'ailleurs, vous, si vous êtes marié, comme un célibataire, vous avez besoin de l'amour de Dieu. Et vous avez aussi besoin, sur le plan horizontal, d'amitié, de fraternité, de complicité. Le seul cadre du couple n'est pas l'unique horizon de votre vie affective, non ? Alors Jésus nous appelle à nous aimer les uns les autres dans l'Église. Paul nous invite à nous accueillir les uns les autres. Et c'est tellement important de pouvoir nous accueillir les uns les autres. Alors dans nos communautés, on aime parler de communion fraternelle, de fraternité. On aime boire le café, manger ensemble. Et ça, ça nous manque terriblement en période de crise sanitaire. Mais dans l'Église, au nom de notre Père commun, au nom de notre Sauveur qui nous unit à lui avec un amour d'une profondeur infinie, un amour inaltérable, au nom du Saint-Esprit qui nous fait voir la vie autrement, la fraternité, c'est bien plus que boire le café et manger ensemble. La fraternité signifie que, quelle que soit notre situation de vie, quel que soit l'état de nos relations au quotidien, l'Église est un lieu où personne n'est seul, où nous pouvons compter les uns sur les autres. À cause de l'amour du Père répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint et garanti par le Christ mort et ressuscité, l'isolement n'est plus de mise, que vous soyez en couple ou pas. Alors j'aimerais simplement donner trois pistes pour vivre la fraternité dans l'Église, en particulier avec ceux qui vivent seuls. La première piste, c'est l'hospitalité. Inviter des personnes différentes. Pour un repas, un café, une balade, un anniversaire ou un moment marquant, un week-end de vacances, quand on le pourra. Est-ce que vous avez remarqué que souvent, on invite ceux qui nous ressemblent? On s'invite entre jeunes couples, entre familles, entre personnes de la même génération ou des mêmes catégories sociales. Oser s'accueillir, c'est aussi oser inviter quelqu'un qui vient d'une autre catégorie socio-économique, d'une autre génération. Et en particulier pour ceux qui peuvent se sentir seuls, de les accompagner sur ces moments repères, ces moments balises dans leur vie, que peuvent être les fêtes, les moments marquants, les grandes étapes dans leur vie quotidienne. Alors l'hospitalité. Mais l'hospitalité suppose aussi une écoute véritable. Souvent, on discute de ce qu'on a en commun. C'est vrai. Mais mariés et célibataires n'ont pas les mêmes préoccupations. Et c'est peut-être ça qui fait que nous pouvons être mal à l'aise. Alors pour accueillir, peut-être qu'il faudra apprendre à poser des questions ouvertes. À abandonner l'idée qu'on sait ce que l'autre vit, mais à oser nous intéresser à lui. À oser lui demander comment il va, mais en vrai, pour avoir des conversations profondes. Pour nous intéresser à sa vie quotidienne, nous aurons peut-être des surprises. Oser aussi être un vis-à-vis pour l'autre et recevoir ce qui le préoccupe, ce qui le perturbe, ce qui est dans ses méditations, dans ses réflexions, à ce moment-là. Avoir des conversations profondes qui lui permettent de répandre ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et puis, toujours dans cette écoute véritable, prier pour l'autre, mais aussi avec l'autre. Ne pas prier seulement pour résoudre des problèmes qui ne sont que dans notre point de vue, mais à l'écoute de l'autre, pouvoir prier avec lui, le soutenir, c'est ça la vraie fraternité aussi. Prier avec lui pour qu'il puisse continuer à avancer dans son état, mais qu'il soit béni et qu'il bénisse autour de lui. Alors l'hospitalité, l'écoute véritable, et puis troisième piste, oser proposer des services concrets. Un des défis pour les célibataires, pour ceux qui vivent seuls, c'est de manquer d'un partenaire attitré et tout désigné, notamment pour s'entraider. C'était d'ailleurs le sens hein, quand Dieu crée la femme comme vis-à-vis, un secours pour l'homme. Le mot qui est utilisé, c'est vraiment l'aide, mais pas l'aide l'assistante, hein, c'est la personne sur qui on peut s'appuyer pour avancer. Et il y a tout lieu de croire que cette aide soit réciproque. Quand on vit seul, on manque de ce partenaire vis-à-vis pour s'entraider, pour avancer parfois sur les choses très concrètes du quotidien. Par exemple, pour un rendez-vous médical, il n'est pas toujours simple d'organiser les trajets jusqu'à l'hôpital ou les suites d'une anesthésie. Pour les petits projets de bricolage à la maison, tout le monde n'est pas forcément doué et l'on peut vite se retrouver décontenancé devant la tâche. Il y a toutes sortes d'aides matérielles, de services concrets du quotidien auxquels on ne pense pas forcément quand on vit à deux, mais qui peuvent être vraiment difficiles quand on vit seul et qui peuvent donner, rappeler en tout cas, que l'on est démuni. Alors pensons à demander à ceux qui nous entourent s'ils ont besoin d'aide, très concrètement, et pensons aussi à peut-être proposer à être une personne contact pour le domaine médical. Vous voyez, de pouvoir être une personne ressource, pas pour tous les célibataires qui nous entourent, mais peut-être pour une personne qui vit seule dans notre famille ou dans notre communauté ou dans notre voisinage. Voilà, en cette Saint-Valentin, je crois que la Bible nous invite à ne pas limiter l'amour à l'amour romantique, à l'amour à l'eau de rose. Mais elle nous invite toujours à nous ouvrir en hauteur vers Dieu, à nous rappeler que c'est auprès de Dieu que nous puisons la véritable, vivante source d'amour qui seule pourra parfaitement nous combler. Et puis elle nous invite aussi à élargir nos horizons vers différentes relations dont la richesse et la diversité sont un hommage à l'amour divin inaltérable. Alors que nous soyons mariés ou célibataires, nous avons une vie riche d'amour à vivre. Et explorons chacun, là où nous en sommes, cet amour tous azimuts, en hauteur, en largeur, en longueur, en profondeur. Cet amour qui vient de Dieu en Christ et dont nous avons tant besoin chacun.
En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Nous appelle par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles. Créature. de ta voix, tu nous appelles à la croix.